Chapitre 31. Je surpris Didi et Bobby en pleine dispute un quart d'heure plus tard. J'étais censée rester assise dans mon canapé en gentille fille, mais j'étais trop tendue pour tenir en place, et je ne m'habituais pas à voir mon petit espace envahi par tout ce monde. Personne ne semblait s'intéresser à mes faits et gestes, et je descendis donc jeter un œil à Bella. Bobby et Didi étaient dehors au bord du trottoir. Pas d'autres enquêteurs à l'horizon. J'entendis d'abord le ton de Didi et sa colère m'arrêta net.
« Mais qu'est-ce qui te prend ?» grondait-elle.
« Je ne vois pas de quoi tu parles. » répondit Bobby avec un détachement fin, mais déjà sur la défensive. Apparemment, il savait très bien ce qu'elle avait en tête. Je rentrai dans le vestibule, l'oreille collée à la porte extérieure entr'ouverte.
« Il se passe quelque chose avec elle !» accusa Didi.
« Qui ?»
Didi lui donna un grand coup dans le bras, j'entendis la claque.
« Aïe, merde! C'est ma fête ou quoi, aujourd'hui ?»«
Ne fais pas le malin, on se connaît depuis trop longtemps. »
Pause. Puis, comme Bobby ne disait toujours rien,
« Bon sang, Bobby, qu'est-ce qui te passe par la tête? D'abord Catherine, maintenant Annabelle? Qu'est-ce que c'est? Le complexe du sauveur? Tu ne t'intéresses qu'aux demoiselles en détresse? Tu es enquêteur. Tu devrais avoir un peu plus de bon sens. »
« Je n'ai rien fait de mal, » dit Bobby avec plus d'assurance cette fois-ci.
« J'ai vu comment tu la regardais. »
« Oh, bon sang !»«
Alors c'est vrai, hein? Allez, regarde-moi dans les yeux si ce n'est pas vrai. »
Le silence se prolongea à nouveau. Je devinais que Bobby ne la regardait pas dans les yeux.
« Bordel !» dit Didi.
« Je n'ai rien fait de mal !» répéta-t-il avec raideur.
« Alors quoi, ça te rend noble ? Bobby, tu sais, je faisais de mon mieux pour passer l'éponge sur l'épisode, Catherine. Ok, tu as eu une histoire avec elle. Ok, tu as perdu tout bon sens. Dieu sait qu'elle fait cet effet-là aux hommes. Mais que tu reviennes et que tu recommences, est-ce que c'est pour ça qu'on a rompu, Bobby ? Parce que pour que tu tombes amoureux, il faut que la femme soit plus ou moins une victime. »
Alors ça m'a vraiment foutu en rogne. Et ça a aussi fait sortir Bobby de ses gonds.
Si tu veux être aux commandes, j'aime autant les défis qu'un autre, Didi. Sauf qu'on ne s'est jamais défié, toi et moi. On est des clones, Didi. Notre vie, c'est boulot, boulot, boulot. Et quand on est sortis ensemble, on a embarqué notre boulot avec nous dans l'aventure. Putain, on se connaît depuis 10 ans et je viens seulement de découvrir, il y a 6 heures, que tu as un oncle et que tu aimes les Rottweilers. Ça n'est jamais venu dans la conversation parce qu'on parlait tout le temps boulot. Même au lit, on était des flics.
« Hé, il n'y a pas que ce boulot dans ma vie, »
répliqua Didi. Et l'espace d'un instant atroce, je crus qu'elle allait pleurer.
« Oh !» « Voyons, » dit Bobby avec lassitude. « Pas de ça !»
Nouvelle claque. J'imaginais qu'il avait essayé de la toucher.
« Ne t'avise pas d'avoir pitié de moi. »
« Écoute, Didi, tu veux qu'on se dise les choses ? Alors appelons un chat un chat. Ça n'a jamais été sérieux avec moi. J'étais une curiosité, le tireur d'élite super cool quand il parlait de son arme. On sait tous les deux que tu as de beaucoup plus gros poissons en vue.
Alors ça, c'est bas. »
On n'est pas franchement en train d'échanger des amabilités.
Longue pause, pénible.
Elle va t'attirer des ennuis, Bobby.
Je suis un grand garçon.
Tu n'as jamais travaillé sur ces grosses affaires. On ne peut pas s'impliquer personnellement.
Merci pour la confiance. Bon, est-ce que tu as quelque chose de particulier à me dire, de commandant à enquêteur ? Parce que sinon je rentre.
Il y eut un froissement de tissu, puis un silence soudain. Je crois que Didi l'avait pris par le bras. « Je suis allée chez moi, Bobby. Je ne vois aucun signe d'intrusion. Mes portes sont verrouillées, mes fenêtres nickel. Mais Sinkus avait raison. Les sous-vêtements sont à moi. Quelqu'un est entré par effraction, a volé les sous-vêtements dans mon panier et s'est montré très très malin. »
« Les techniciens de scène de crime... »
« Il n'y aura pas de traces, Bobby. De la même façon qu'ils n'ont rien trouvé ici, je crois que ça nous donne une assez bonne idée du personnage à qui on a affaire. »
Des clous. Dès qu'on a fini ici, j'y vais avec toi jeter un œil. »
Elle dut avoir l'air dubitative parce qu'il expliqua avec une certaine exaspération.
« Ancien des forces spéciales, Didi. Je connais un ou deux trucs sur les entrées avec effraction. »
« Je t'en prie. Vos équipes enfoncent les portes avec une énorme clé métallique. Entre vos méthodes et celles de notre type, il y a un monde. »
« Ouais. » marmonna Bobby, mais il semblait préoccupé. « C'est ce que je ne comprends pas. Cette façon de traquer la victime, ça colle, mais... Il y a 25 ans, quand il a commencé, il s'en prenait à des petites filles. Annabelle Granger, 7 ans, sa meilleure amie, Dori Petracelli, et d'un seul coup, ce sont les femmes adultes qui l'attirent. Toi, Annabelle. Je ne suis pas profileur, mais je ne pensais pas que ce genre de choses arrivait.
Peut-être que notre âge ne compte pas à ses yeux. Annabelle est celle qui s'est enfuie. Maintenant qu'il l'a retrouvée, il est bien décidé à ne pas la laisser échapper. Et moi, je suis la responsable de l'enquête. Il veut me faire sentir son pouvoir. Mais comme j'ai moins d'importance pour lui, ça ne l'a pas dérangé d'envoyer les chiens au lieu de s'en charger lui-même. Annabelle est l'œuvre de sa vie. Moi, je ne suis qu'un passe-temps.
Encourageant comme idée.
Surtout pour moi. Qui aurait envie d'être tué en guise de bonus? Et puis, Bobby, regardez Ola. La plupart des gens pensent qu'il a tué une infirmière à l'hôpital psychiatrique. Alors si c'est notre homme, il s'agit de quelqu'un qui, par le passé, s'en est déjà pris à des femmes de tous âges. Bundy était bien comme ça. On l'imagine surtout agressant ses camarades d'université, mais certaines de ses victimes étaient très jeunes. Ces types, comment savoir ce qui les branche vraiment?
Bobby ne répondit rien sur le coup, puis il demanda. « Tu considères toujours Russell Granger comme un suspect ?»«
Jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. »
« Revenu d'entre les morts, » murmura Bobby avec ironie.
Didi nous surprit tous les deux.
« J'ai parlé au légiste hier soir. Comme tu es très occupé en ce moment, j'ai eu l'idée de te filer un coup de main et j'ai enquêté sur les circonstances de la mort du père d'Annabelle. D'après le dossier, la police a contacté Annabelle, Tania. Elle a identifié le corps et ça a suffi au légiste.
Pense à ça, Bobby.
Le visage était embouilli. » Le service de médecine légale n'a pas pris les empreintes ni relevé les signes particuliers. C'était un simple accident avec délit de fuite et la fille de la victime l'avait identifié. Autrement dit, ce cadavre aurait pu être n'importe qui en possession du permis de conduire de Michael W. Nelson. Un inconnu, un clochard, un pauvre type poussé sous les roues.
Les explications de Didi semblaient laisser Bobby sans voix. Ce qui était préférable parce que je ne croyais pas pouvoir entendre quoi que ce soit avec le sang qui battait dans mes oreilles. Didi pensait que mon père était encore en vie. Émettait l'hypothèse qu'il avait tué quelqu'un pour faire croire à sa propre mort. Croyait sincèrement qu'il était le génie du mal derrière cette série de meurtres. Mais c'était absurde. Mon père n'était pas un tueur. Pas de petite fille, pas de Dori Petracelli, pas d'homme adulte. Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Il ne m'aurait pas laissé. Mes jambes se dérobèrent sous moi. Mon épaule heurta la porte d'entrée et l'ouvrit. Didi et Bobby ne s'en aperçurent pas. Ils étaient trop occupés à analyser leur dossier, à déchirer mon père à pleines dents, à transformer une des rares vérités que je connaissais en un gigantesque mensonge. Nous n'avions pas quitté Arlington parce que mon père avait besoin d'effacer ses traces. Nous avions déménagé pour me protéger. Nous avions déménagé parce que...
Roger, je t'en prie, n'y va pas. Roger, je t'en supplie, ne fais pas ça.
Quelle que soit son identité, reprit Bobby encore manifestement sceptique, l'individu veut attirer l'attention. Et aussi intelligent soit-il, il ne fait aucun effort de subtilité. Il laisse un message sur ta voiture, un cadeau devant la porte d'Annabelle. Pourquoi? S'il est si génial que ça, pourquoi ne pas vous tuer toutes les deux et puis basta? Il veut chasser, il veut avoir une occasion de briller. Et c'est exactement comme ça qu'on va le coincer. Il va à nouveau vouloir entrer en contact, et à ce moment-là, on le chopera.
J'espère que tu as raison, murmura Didi. Parce que je suis presque sûre qu'un type comme lui a des projets terrifiants dans ses cartons. Ils se retournèrent, se dirigèrent vers le perron. Avec un peu de retard, je me redressais et grimpais les escaliers 4 à 4. Les enquêteurs Sinkus et McGahagin me virent avec curiosité rentrer comme un ouragan dans l'appartement. Je filai droit à ma chambre, fermai la porte. Les secondes s'écoulèrent. Pour finir, j'entendis des petits coups timides à la porte. Je ne répondis rien. La personne qui avait frappé s'éloigna. Je m'assis sur mon lit étroit en agrippant l'ampoule de cendre à mon cou et en me demandant si même elle contenait un mensonge. En fin de compte, ce fut de ma faute. Mon téléphone se mit à sonner. Je n'avais pas envie de sortir de ma chambre pour répondre, alors évidemment le répondeur se déclencha. Et, évidemment, M. Petracelli laissa un message qui fut entendu par la moitié de la police de Boston. « Annabelle, j'ai retrouvé le croquis de la réunion pour le comité de surveillance de quartier, comme vous me l'avez demandé. Naturellement, j'aimerais autant ne pas mettre ces documents à la poste. Je suppose que je peux me débrouiller pour revenir en ville si vous y tenez vraiment. Même heure, même endroit. Rappelez-moi. »
Il débita un numéro de téléphone. Je m'assis sur mon lit avec un soupir. Cette fois-ci, les coups frappés à ma porte n'étaient pas une simple demande polie. J'ouvris et me retrouvai face à Bobby, l'air très sombre.
« Croquis ? Même heure ? Même endroit ?»«
Eh !» répondis-je gaiement.
« Ça vous dirait une petite virée ? »
Monsieur Petracelli fut soulagé d'apprendre qu'il n'aurait pas à faire le trajet tant redouté jusqu'au centre-ville. Bella apprécia elle aussi grandement l'idée d'aller faire un tour, et Bobby et moi nous retrouvâmes donc en voiture, à éviter soigneusement de croiser le regard de l'autre. La circulation était fluide, Bobby appela le central et demanda des vérifications sur mes anciens voisins. Cela m'intrigua de ne pas être la seule à me montrer parano pour une fois. En règle générale, je cherchais sur Google le nom de tous les gens que je rencontrais. « Où est Didi ?» demandai-je finalement. « Elle avait affaire ailleurs. »« Et Ola ?» tentai-je. Il me lança un regard de côté. « Et comment connaîtriez-vous ce nom, Annabelle ?» J'optai pour un mensonge éhonté. « Internet. » Il eut l'air sceptique, clairement pas dupe, mais répondit à ma question. « Didi est en train d'analyser une scène de crime dans son propre appartement. » Le type a peut-être laissé un cadeau devant votre porte, mais il est entré chez elle par effraction et a volé ses sous-vêtements. « C'est parce qu'elle est blonde, » dis-je, ce qui me valut encore un regard bizarre. Nous nous garâmes dans l'allée des Petracelli. Le petit cottage gris semblait se fondre dans le ciel nuageux, volet blanc, petit jardin verdoyant, la maison idéale pour un couple âgé qui n'aurait jamais de petits-enfants. Monsieur Petracelli a toujours trouvé que la police de Lawrence ne prenait pas l'affaire de sa fille suffisamment au sérieux, expliquai-je en descendant de voiture. Bella gémit, je lui dis de ne pas bouger. Si vous dites que vous cherchez un lien entre la disparition de Dory et mon voyeur, je crois que Monsieur Petracelli va se lâcher.
Je parle, vous vous taisez,
m'informa froidement Bobby. Connard, soufflai-je dans son dos, mais je ne pipais pas mot pendant que nous remontions l'allée d'allée. Bobby sonna. Madame Petracelli ouvrit et soupira en nous voyant tous les deux. Elle me lança un regard que je ne peux qualifier que de profondément désolé. « Walter, » dit-elle calmement, « tes invités sont là. » Monsieur Petracelli descendit les escaliers en bondissant, avec bien plus d'énergie que dans le souvenir de ma précédente visite. Il avait un dossier à souffler sous le bras droit et une lueur vive, quasi surnaturelle dans les yeux. « Entrez, entrez, » dit-il jovial. Il serra la main de Bobby, puis la mienne, et sembla chercher mon chien féroce du regard. « J'étais dans tous mes états d'apprendre que vous veniez, enquêteur. Et si vite, j'ai les informations, absolument, tout est là. Oh mais, attendez, regardez-nous un peu, debout dans l'entrée. Quel mal appris je fais. Allons nous installer confortablement dans le bureau. Lana, ma chérie, du café ?» Lana soupira encore, partie vers la cuisine. Bobby et moi suivîmes Monsieur Petracelli, qui se dirigeait d'un pas léger vers le bureau. Une fois là-bas, il se laissa tomber au bord d'une chaise confessionnale en cuir, ouvrit avec impatience son dossier, étala des papiers. Contrairement à son attitude sombre et menaçante de la veille au soir, il s'y flottait presque en sortant tous ses documents qui relataient les sinistres détails de l'enlèvement de sa fille. « Comme ça, vous êtes de la police de Boston ?» demanda-t-il à Bobby.
« Capitaine Robert Dodge, monsieur. » Police d'État du Massachusetts. Excellent. J'ai toujours dit que l'État devrait être impliqué. Les policiers municipaux n'ont tout simplement pas assez de moyens. Petite ville égale petit flic égale petits esprits.
Monsieur Petracelli semblait avoir enfin disposé ses papiers à sa convenance. Il leva les yeux et s'avisa que Bobby et moi nous tenions toujours sur le pas de la porte.
Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Mettez-vous à votre aise. J'ai pris des notes détaillées pendant des années. Nous avons pas mal de choses à voir.
Je m'assis au bord d'une causeuse recouverte d'un tissu écossais vert. Bobby se glissa à côté de moi. Madame Petracelli arriva, déposa les tasses de café, la crème, le sucre, et repartit aussi vite que possible. Je ne l'en blâmais pas.
Alors, en ce qui concerne le 12 novembre 1982,
Monsieur Petracelli avait en effet pris des notes minutieuses. Au fil des années, il avait établi une chronologie précise du dernier jour de la vie de Dory. Il savait à quelle heure elle s'était levée, ce qu'elle avait mangé au petit-déjeuner, quels vêtements elle avait choisi, quels jouets elle avait dans le jardin. Vers midi, sa grand-mère l'avait appelée pour le déjeuner. Dory avait préféré prendre le thé avec sa collection d'ours en peluche sur la table de jardin. N'y voyant pas de mal, la grand-mère avait apporté une assiette de sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, sans la croûte, avec une pomme coupée en tranches. La dernière fois qu'elle l'avait vue, Dory faisait passer les friandises parmi ses invités en peluche. La grand-mère était rentrée pour ranger la cuisine, puis elle avait été retenue à parler avec une voisine au téléphone. Lorsqu'elle était ressortie 20 minutes plus tard, les ours étaient encore assis, chacun avec une bouchée de sandwich et de pommes sous le nez. Dory était introuvable. Monsieur Petracelli savait à quelle heure le 911 avait été appelé. Il connaissait le nom de l'agent qui avait répondu, savait quelles questions avaient été posées, quelles réponses apportées. Il avait des notes sur les équipes de recherche formées, la liste des volontaires qui s'étaient présentés, dont certains marqués d'un astérisque parce qu'ils n'avaient jamais fourni d'alibi satisfaisant sur ce qu'ils faisaient entre 12h15 et 12h35 ce jour-là. Il connaissait les maîtres chiens qui avaient proposé leur service, les plongeurs qui avaient finalement fouillé les étangs voisins. Il avait 7 jours d'activité policière et de voisinage résumés dans des chronologies complexes et des listes de noms exhaustives. Et puis, il avait l'information donnée par mon père. J'étais incapable de lire sur le visage de Bobby ce qu'il pensait de l'exposé de M. Petracelli. La voix de ce dernier montait et descendait, prenait diverses intonations, et il crachait même parfois certains mots lorsqu'il pointait des lacunes évidentes dans ce qui semblait être des recherches méthodiques pour retrouver une petite fille. Bobby restait impassible. M. Petracelli parlait. De temps en temps, Bobby prenait des notes. Mais surtout, il écoutait, sans que son visage trahît quoi que ce soit. Personnellement, je voulais voir le croquis. Je voulais voir le visage de celui dont je croyais qu'il m'avait prise pour cible et avait condamné ma famille à toute une vie de cavale avant de tuer ma meilleure amie. La réalité fut décevante. Je m'attendais à une mine plus patibulaire. Un croquis en noir et blanc montrant un regard noir et sournois, un tatouage en forme de larme sur la pommette droite. Au lieu de cela, le dessin exécuté avec soin, très certainement l'œuvre de mon père, semblait presque maniéré. L'individu était jeune, la petite vingtaine à vue de nez. Cheveux sombres coupés courts, yeux sombres, mâchoire fine, presque distinguée, pas du tout la brute. En fait, le dessin me faisait penser au gamin qui travaillait à la pizzeria du coin. J'observais longuement le dessin, attendant qu'il me parle, qu'il me livre tous ses secrets. Il resta le portrait grossier d'un jeune homme qui, franchement, aurait pu être n'importe lequel des dizaines de milliers de brins de 20 ans qui étaient passés par Boston. Je ne comprenais pas. C'était ça que mon père fuyait? Bobby demanda à M. Petracelli s'il avait un fax. En fait, nous pouvions tous les deux en voir un sur le bureau derrière lui. Bobby expliqua qu'on gagnerait peut-être du temps en faxant tout de suite les notes, etc. au bureau pour que les autres enquêteurs se mettent au travail. M. Petracelli était fou de joie que quelqu'un prenne enfin son dossier au sérieux. Je regardais Bobby composer le numéro de fax. Il comprenait un code régional, ce qui n'aurait pas été nécessaire pour une communication avec Boston, et la seule feuille introduite dans la machine fut le croquis. Bobby fit passer les autres pages dans le fax en mode photocopieuse et ramassa les copies. M. Petracelli se balançait au bord de son fauteuil, le visage anormalement rouge, un sourire épanoui aux lèvres. La fièvre du moment avait de toute évidence fait grimper sa tension. Je me demandais combien de temps se passerait avant sa prochaine crise cardiaque, s'il atteindrait son but et vivrait assez longtemps pour assister à la découverte du corps de sa fille. Nous vidâmes nos tasses de café par pure politesse. M. Petracelli nous laissa partir comme un regret et nous serra la main à plusieurs reprises. Lorsque nous sortîmes enfin vers la voiture, M. Petracelli se tenait sur le pas de la porte et il nous faisait indéfiniment au revoir de la main. Je lui lançai un dernier regard alors que nous nous éloignions en voiture dans la rue. Image d'un petit vieillard voûté, le visage trop rouge, le sourire trop radieux, qui saluait encore avec détermination l'enquêteur dont il croyait dur comme fer qu'il allait enfin ramener sa fille à la maison. « Vous avez faxé le croquis à Catherine Gagnon ? » dis-je dès que nous rejoignîmes la grande route. « Pourquoi ?»«
Votre père a montré un croquis à Catherine quand elle était à l'hôpital, » dit-il brusquement.
« Vraiment ?»
Je veux savoir si c'est le même dessin.
Mais ce n'est pas possible. Catherine était à l'hôpital en 80 et ce dessin n'a été fait que 2 ans plus tard.
Comment le savez-vous?
Parce que le fameux voyeur n'a commencé à m'apporter des cadeaux qu'en août 1982 et il ne peut pas y avoir de portrait de voyeur sans voyeur.
Il n'y a qu'un seul problème avec ce raisonnement.
À savoir?
D'après les rapports de police, personne n'a jamais vu le visage du fameux voyeur. Ni vos parents, ni Madame Watts, ni aucun de vos voisins. En théorie, il ne peut donc pas avoir servi de modèle pour ce dessin.
Là, je séchais. Je ruminais l'information en me disant qu'il devait y avoir une explication, même si je me rendais compte que j'employais beaucoup cette expression ces derniers temps. Mon père savait quelque chose en 1980, conclus-je. Quelque chose d'assez grave pour que ça le pousse à se faire passer pour un agent du FBI et à rendre visite à Catherine un croquis à la main. Mais quoi? J'essayais de fouiller dans ma mémoire. Je n'avais que 5 ans en 1980. J'habitais à Arlington et... je n'arrivais pas à faire remonter quoi que ce soit. Pas même le souvenir d'un cadeau emballé dans une bande dessinée. J'étais certaine que ces cadeaux avaient commencé à arriver 2 ans plus tard quand j'avais 7 ans. Le silence fut finalement rompu par le pépiment du téléphone portable accroché à la ceinture de Bobby. Il le prit, échangea quelques mots laconiques, me jeta un regard de côté. Il le referma, sembla sur le point de parler, mais le téléphone sonna à nouveau. Cette fois-ci, il parla d'une voix différente, polie, professionnelle, la voix d'un enquêteur qui s'adresse à un étranger. Il essayait apparemment d'arranger un rendez-vous et ça ne se passait pas comme il voulait.
« Quand partez-vous pour la conférence ?»«
Je vais être franc, monsieur. J'ai besoin de vous rencontrer au plus vite. C'est à propos d'un de vos anciens professeurs, Russell Granger. » Même moi, j'entendis le glapissement à l'autre bout du fil. Et puis aussitôt, Bobby se mit à hocher la tête.
« Où habitez-vous déjà ?»«
Lexington. En fait, il se trouve que je suis à 2 pas. » Il me jeta un coup d'œil. Je répondis par un haussement d'épaule, heureuse de ne pas avoir à en dire plus. De toute évidence, Bobby essayait d'organiser une entrevue avec l'ancien patron de mon père, et de toute évidence, il fallait que ça se passe maintenant. Cela ne me dérangeait pas, naturellement, pas question que je poirote dans la voiture.